jour, de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver en direct autour de notre table ronde mensuelle avec mes consoeurs et confrères de la presse scientifique venus, vous le savez, avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner, chers amis auditrices et auditeurs à l'esprit libre et ouvert. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie chaleureusement et on vous embarque aujourd'hui dans le système solaire et même au-delà pour y chercher refuge avec Guillaume Langin de Ciel et Espace qui fête son 600e numéro carrément. En chemin, nous découvrirons de la glace noire et brûlante. Et oui, et brûlante. Avec Valérie Greffos d'Epsilon, mais aussi les fonctions cachées de l'ARN, une vraie révolution décodée par François Lassagne dans Pour la science. Avant de nous demander avec Elsa Couder du site en ligne The Conversation jusqu'où Einstein avait-il raison pour la gravitation. Et en commençant par gravir justement la face nord de l'Everest, avec Mathieu Novak dans Science et Avenir sur les traces d'une chaussure qui va peut-être résoudre une des plus grandes énigmes de l'alpinisme autour de la question comment la science infuse et se diffuse tant bien que mal jusque chez vous. Bienvenue. Partager sa science, produire et diffuser des connaissances, ça risque tout de même de devenir de plus en plus difficile aux États-Unis où Donald Trump et Elon Musk plongent la science américaine dans un indescriptible chaos, dénoncé par toutes les revues scientifiques les plus prestigieuses comme Nature et Science, mais aussi par l'historien américain Timothy Snyder de l'université de Yale, cité par Stéphane Foucard dans Le Monde, qui n'hésite pas à parler de coup d'État numérique. Si le premier gouvernement Trump, entre 2017 et 2021, s'attaquait uniquement, si j'ose dire, aux résultats gênants de certaines disciplines scientifiques. Trump 2, en coupant les budgets, les financements, déclare carrément, lui, la guerre à la science en général. L'affaire est grave pour la science américaine en particulier, une des meilleures au monde, mais aussi pour la recherche en général. Est-ce que vous avez plus d'infos, François Lassagne, sur ce qui nous arrive ?
Oui, peut-être des infos de coulisses. Vous avez cité, Caroline, Nature et Science, qui sont effectivement des revues très connues dans lesquelles les scientifiques publient les résultats de leurs recherches. Il se trouve que pour la science, on est partenaire de Scientific American, qui est une très vieille revue de vulgarisation américaine et qui elle-même est liée au groupe Nature Springer, qui édite la revue Nature. Donc je suis régulièrement en contact avec Scientific American, qui me disait que une des grandes inquiétudes qu'ils avaient du côté de Nature, de la revue Nature, c'était pas tant les discours, les agressions verbales pour faire peur aux chercheurs, ça compte beaucoup. Mais plus fondamentalement, ils craignaient qu'il y ait des tentatives de hack ou de sabotage des résultats de recherche eux-mêmes qui sont en fait très concrètement dans les serveurs des grandes revues comme Nature. Et donc une des initiatives qu'a immédiatement pris Nature, c'est de sécuriser davantage sur d'autres serveurs redondants, cryptés, une grande partie des archives des résultats scientifiques qu'elle
pour
a publiées jusqu'à présent.
Ce coup d'État numérique,
exactement,
justement.
Exactement.
Mathieu Novak, Science et Avenir, vous avez...
Pour le moment, on voit que les chercheurs, comme d'ailleurs la population et les politiques, tout le monde est un peu dans un état de sidération, mais on commence à voir la brutalité de la chose. Il y a un organisme qui s'appelle la National Science Foundation, qui n'est pas vraiment un champ de recherche, mais qui finance, ça finance en gros un quart de tous les programmes de recherche aux États-Unis. Et là, il y a 10% des gens qui viennent se faire mettre à la porte, en recevant un mail, en s'appuyant sur vos résultats, l'agence pense que vous n'avez pas démontré que la prolongation de votre emploi serait dans l'intérêt public. Donc on voit la brutalité de la chose, quoi.
Et à côté de ça, en plus, c'est l'aberration, parce qu'en fait, c'est comme s'il pouvait y avoir de la tech sans science derrière, et comme si toute science devait absolument être efficace et produire de la tech.
Et à côté de ça, il y a le sénateur du Texas, Ted Cruz, qui a fait marcher de l'intelligence artificielle pour aller cibler des programmes qu'il trouve woke. Donc il y a 3400 programmes comme ça qui sont arrêtés du jour au lendemain.
Des programmes woke en science,
voilà,
citez-nous
en astrophysique, en photovoltaïque, par exemple, dans les nanotechnologies.
Mais c'est vrai que l'astrophysique, c'est vraiment woke, en fait.
Voilà, mais pour le moment, en fait, tout le monde, les gens qui s'expriment restent anonymes, parce qu'on sait que la méthode, c'est d'une brutalité extrême. Et comme avait fait Elon Musk avec Twitter, environ 90% des gens, après il a été obligé d'en rembaucher. Donc pour le moment, c'est sous couvert d'anonymat, les gens ne parlent pas, ne veulent pas faire de vagues, parce qu'on ne sait pas encore quelle sera l'étape suivante. Mais on a du mal à savoir justement quelle sera cette étape. Oui.
C'est ça, et jusqu'où iront les rotomontades dans la réalité. On connaît en tout cas le programme PAUSE pour les scientifiques en exil, qui vient du Moyen-Orient, d'Afrique ou d'ailleurs, on ne sait jamais. Peut-être faudra-t-il l'ouvrir un jour aux scientifiques américains. Elsa Couder, on peut on peut les soutenir un peu, pas seulement les scientifiques américains, mais la science et la recherche en général.
Oui, tout à fait. Face à ces bouleversements très brusques, les scientifiques aux États-Unis, qu'ils soient américains ou non, commencent à s'organiser et sont suivis par leurs confrères et consoeurs partout dans le monde. Il y a notamment des manifestations qui sont organisées ce vendredi comme mot d'ordre « Stand up for science ».
Stand up for science, ce vendredi dans le monde entier pour soutenir la science. J'espère que vous êtes prêts, chers amis auditrices et auditeurs, où vous soyez dans le monde. Prêt aussi à gravir la montagne, carrément, la Mathieu Novak dans Science et Avenir. Vous allez nous entraîner dans quelques instants sur la face nord de l'Everest, sur les traces d'une chaussure et d'une chaussette qui pourrait peut-être résoudre une des grandes énigmes de l'alpinisme.
Once there was a mountain called Peak 15. Nothing was known about it. But in 1852, the surveyors found it was the highest in the world, and they named it Everest.
L'Everest en musique avec le groupe Public Service Broadcasting. Mais c'est un peu une sorte de polar scientifique, une exploration historique que vous nous proposez, Mathieu Novak, dans Science et Avenir, autour de la découverte, vous venez de me montrer la photo, elle est hallucinante, découverte en septembre dernier d'une chaussure de montagne dans la glace et d'une chaussette avec une petite étiquette comme celle qu'on met quand nos enfants partent en colo, c'est ça ?
Voilà, c'est tout à fait par hasard que des gens ont trouvé une équipe du National Geographic, alors qu'ils n'étaient pas partis pour faire complètement autre chose, ont trouvé une chaussure et se sont dit « Ah, mais ça, cette chaussure, c'est un vieux modèle ». Et effectivement, ils l'ont prise, la chaussure. Il y avait, pardon, il y avait des restes de pied dedans, mais enveloppée dans une chaussette qu'ils ont légèrement tirée. Et là, comme quand on partait en colline de vacances, une petite étiquette cousue d'un petit fil rouge et dessus, le nom de Irvine. Or, Irvine, c'était l'un des deux Britanniques qui est parti avec George Mallory en 1924 pour essayer de conquérir l'Everest et qui ont disparu au cours de leur ascension et dont on n'avait aucune trace jusqu'en 1999 quand on a retrouvé le corps de George Mallory. Mais Irvine, aucune trace jusqu'à cette chaussure.
Et vous citez dans cet article d'ailleurs le journal de bord de Irvine, c'est étonnant, c'était le 7 juin,
deux appareils à oxygène pour notre dernière tentative de demain.
Et après, plus de nouvelles.
Page 98, il n'est jamais arrivé à la centième page.
Et donc on ne sait pas, ce qu'ils sont devenus, on ne sait pas s'ils ont réussi leur ascension ou pas.
On les a vus le dernier jour, donc c'était en juin, début juin de 1924, à peu près à 8100 mètres. Hein. Je vous rappelle, le sommet de l'Everest, c'est 8800. Mmh. Donc ils étaient à 2200 mètres d'y parvenir. Il faisait beau et finalement, tout d'un coup, ça s'est couvert. La personne qui les suivait de vue les a vus disparaître dans le brouillard et on ne les a jamais revus. Est-ce qu'ils sont arrivés au sommet ou pas ? On n'en sait rien. Aujourd'hui, officiellement, l'Everest a été conquis en 1953, c'est-à-dire 29 ans plus tard.
Ah oui, 29 ans plus tard quand même, par, vous les citez d'ailleurs.
C'est Edmund Hillary, un Néo-Zélandais, et Tenzing Norgay, un Sherpa népalais. Voilà. Mais pour les deux, peut-être qu'ils y sont arrivés ou pas. Alors, quand on a retrouvé le corps de Mallory en 99, on l'a quand même bien analysé, c'était assez curieux parce qu'il avait les bras tendus, comme si, en fait, il se retenait d'une chute. Et puis après, on a analysé le sang et on a vu qu'il avait dû sans doute être blessé d'abord une fois, puis après qu'il a dû se recouper durant cette chute. Donc, on ne savait pas trop. Bon, lui, on l'a trouvé quand même à 8300 mètres. La chaussure, bon, nos confrères du National Geographic ne sont jamais très bavards, donc on ne sait pas exactement où ils l'ont trouvé, mais c'est beaucoup plus bas, 5700 mètres à peu près d'altitude.
Donc, mais on est sûr, hein, y a vraiment le nom, l'étiquette. De leur vie dessus, c'est fascinant.
Alors, est-ce qu'ils étaient arrivés ? Alors, sur le corps de Mallory, c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait des petits indices. Il avait des lunettes dans la poche. Ces lunettes, ça veut dire qu'il était plutôt en phase de nuit, donc peut-être en train de descendre. Et deuxième chose, il était parti avec des lettres enflammées d'amour avec sa femme et une photo. Et il lui avait dit à sa femme, si on arrive là-haut, je laisse la photo au sommet. On a retrouvé son corps, ses vêtements, les lettres mais pas la photo.
Pas la photo. Donc c'est peut-être eux deux qui ont peut-être été les premiers à atteindre le sommet de l'Everest 19 ans plus tôt que prévu. Donc le
29 ans
plutôt que prévu, ouais. en juin 1924, mais on ne le saura jamais.
Ah, peut-être qu'on le saura, parce que maintenant qu'on a la chaussure, on a une zone peut-être où vous cherchez.
Ouais.
Et chose absolument extraordinaire, c'est que l'équipe, c'était 12 Britanniques, ils sont partis avec quelqu'un qui filmait, mais Irvine lui-même est parti avec un appareil photo, avec un vieux Kodak, enfin vieux. Pour nous maintenant, et si on retrouve le corps, il y a des bonnes chances qu'on retrouve l'appareil photo aussi.
On retrouve les photos et les spécialistes, photos argentiques, on pourrait peut-être.
Et les spécialistes disent que les conditions de froid et d'humidité ne devraient pas avoir trop dégradé la pellicule et que pile 100 ans après, on pourrait voir s'il y a une photo ou pas. Mais vous avez raison, il est très probable qu'on ne le sache jamais.
Magnifique histoire racontée dans cet article très complet signé Marie Parra à lire dans ce numéro du mois de mars de Science et Avenir, vraiment à ne pas manquer. Donc nous avons quelques exemplaires à vous offrir, je vous rappelle. Si vous voulez les gagner, il vous suffit de nous le demander, sportivement peut-être, par mail ou sur notre page Facebook, Avis aux amateurs de montagne et de glaciers. Avez-vous déjà vu de la glace noire, de la glace brûlante ? Explication tout de suite dans Epsilon avec Valérie Greffoz. Enfin, juste après, une petite version hip-hop de Black Ice sur RFI, signé Goody Mob et Outkast.
That's how shit happens sometimes. Yeah. Black ice.
Now you know and I know I done bumped every hole in the wall, y'all. Did you catch that phone call? Most of y'all done met me. Thought I was tall. Yeah, flip like a deal. Slip, fell on the black ice. Did you think twice? Home slice came and he went satisfied. Got bent balls, ain't shit. Mutant coast to coast. Yeah, I left the boat. Man, those. Too many coming close. Cause touch what I never touched before. Seen what I never seen before. Woke up and seen the sun. Sky high, sky high. Circulate like a Sunday paper. Papers caught long time. The cheap flicks, good picks. Pay hard, watch the heart turn sideways, cause the tail. Blu-ray sales to those with loose cares. Players, keep your light for now. Feeling good and warm, windows roll tight. 35 degrees, lip it at night. Don't forget the chapstick, lips dry quick. When the jack out, make you wanna act out. Take the slack out, some people black out.
Touch what I never touched before, came back out. Seen what I never seen before. Woke up and seen the sun. Sky high. Touch what I never touched before. Seen what I never seen before. Woke up and seen the sun. Sky high.
I've been in it for the past few days. Tired of the phase, I know all my plays. Then can I rap, can I adapt, not really sure yet. Who they looking over the shoulders of those writing dreams? Feeling for the taste of menthol. Miss class, stayed in the hall. Looking for a squeeze play, better yet a holiday. Stayed away from the pyramid board game. Broke it down to a neighborhood slang. Cash before fame.
Sky high. Now who done stepped in? The nigga the B.I.G. the secret weapon. Boy, I slicker than black ice. Throw me these flow that rice at wedding. So quick flex. We speaking about something that's refreshing to the earlobes. Pay for the room and still be in pimp mode like iceberg. Chrysler and Buicks. Some niggas ain't on their job, so them suckers seem to lose it. Abuse their privileges and not the whole villages. Been shot to pieces. Cause niggas are biting that same stupid shit. I mean that vicious. Boy, don't beat me if you ain't got no work. I'm strictly about these verses like the ones you hear at church, boy. Search, boy. Talking about your dope with something like Lurch, boy. Every time I heard you rhyming like a fucking jerk, boy. Simp, yeah.
Friends, Romans, countrymen, lend me your eardrums. It was a beautiful day off in the neighborhood. Yellows and greens and blues and browns and grays and hues that ooze beneath dilapidated wood. Ain't a thing could explain what pertains to cocaine and sustaining rain. See summer rolls around, niggas all about change. Then instead it moves them keys like Bob James. Cause old man winter's arrived, the temperature dies. November just died, December's alive. Thus it ain't no typical ride. Just individuals way to bring home the bacon when bacon was all wrong. Making it our own, taking me all wrong. We've all indulged in the bulge of those. No, you ain't so low. That's even lower level you can go. Take sun people, put them in a land of snow.
Touch what I never touched before. Seen what I never seen before. Woke up and seen the sun. Sky high.
Goody Mob sur RFI avec Black Ice. Alors, je ne sais pas si c'est la même glace noire dont vous allez nous parler, Valérie Greffoz, parce que de la glace noire et brûlante, ça existe, comme vous nous le faites découvrir dans Epsilon de ce mois de mars.
Ça existe, tout à fait. C'est une glace qui est née dans le cerveau d'un scientifique soviétique dans les années 80. Ivan Riskin, il s'appelait, et il s'est dit, si on augmente la pression, on prend de la glace normale et on lui met une pression énorme, ce qui pourrait se passer, c'est que donc la glace, c'est de l'eau, hein, c'est de l'oxygène et de l'hydrogène. Les atomes d'oxygène pourraient rester en place, donc solides comme de la glace, et l'hydrogène pourrait se balader, flotter un petit peu comme dans un liquide. Et on aurait donc une glace super ionique, c'est-à-dire qui pourrait conduire l'électricité avec ses ions, ses hydrogènes. Et puis, si on est resté là, parce
glace
que...
Ça serait une glace très étrange. Voilà. Et comment la fabriquer?
C'était ultra étrange. Et puis, il fallait des conditions quand même. 1 millier de degrés Celsius, ouais. Plusieurs centaines de fois la pression atmosphérique. Voilà, à l'époque, on ne pouvait pas fabriquer ça. Donc, c'est un petit peu tombé dans l'oubli. Et puis, à la fin des années 90, il y a un planétologue qui a dit, mais en fait, sur Uranus et Neptune, il y a un drôle de champ magnétique. Mmh. Voilà, on n'arrive pas à l'expliquer. Mmh. Il est plein d'anomalies. On n'y arrive pas. Et finalement, et si c'était parce qu'il y avait de la glace noire à l'intérieur, cette glace si bizarre qui donc reste immobile
à la fois solide et liquide,
et voilà, et bouge, et donc créerait des anomalies magnétiques. Ce qui fait que les scientifiques, évidemment, qui ont toujours envie d'en savoir plus, ils se sont dit, OK, on va la fabriquer.
Ils l'ont fabriqué en laboratoire.
Ils l'ont fabriqué. Ouais, ils l'ont fabriqué. Donc, les premières fabrications, c'est 2018. Voilà, c'est un Français qui travaille aux États-Unis, Marius Millot, au Lawrence Livermore National Laboratory. Il y a aussi une équipe en France qui la fabrique au CEA de Bruyères-le-Châtel. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des lasers hein, pour tenir cette glace. Alors, c'est des tout petits échantillons. Hein. C'est tout petit, c'est peut-être l'épaisseur d'un cheveu, coincé dans une enclume de diamant sur laquelle on exerce une pression énorme avec des lasers qui compriment tout ça, qui chauffent. Mais à la fin, voilà, on obtient...
Ça donne une glace, cette glace noire qui est brûlante.
Donc, elle est brûlante parce qu'on est obligé de mettre une température énorme. Elle est noire parce qu'elle est opaque, en fait. C'est la seule glace qui est opaque.
Voilà. Et c'est, alors on appelle ça, vous l'avez dit, une glace super ionique et elle pourrait être, c'est bien ça qui l'a fait la fabriquer, elle pourrait être vraiment un peu partout dans l'univers et notamment dans ces espèces d'océans glacés,
voilà.
de planètes que l'on ne cesse de subodorer, de découvrir.
Et c'est ça qui est intéressant parce que les exoplanètes, finalement, il y en a beaucoup. Quand on les découvre, on se rend compte qu'elles ressemblent à Uranus et Neptune. Donc s'il y en a potentiellement dans Uranus et Neptune, il y en a peut-être partout dans la galaxie.
Un état absolument fantastique de l'eau. Alors, vous le spécifiez en fin d'article, ça garde tout de même son mystère, on ne sait pas, mais on saura peut-être parce qu'il y a des missions de la NASA, notamment vers Uranus, qui pourraient peut-être nous en apprendre plus, ou en apprendre plus à nos enfants et à nos petits-enfants sur cette
glace noire. C'est sûr que le mieux, ce serait d'aller voir sur place. Voilà. Hein. Donc, normalement, c'est 2035. Voilà, il y a une mission envisagée vers Uranus. Donc, en allant survoler la planète, peut-être qu'on pourra, dans les variations du champ magnétique, avoir la signature, la preuve de l'existence de cette glace noire.
Pour tout savoir sur cette mystérieuse glace noire, je renvoie vers votre article, Valérie Greffos, qui est paru dans ce numéro de Mars d'Epsilon. Alors, à la une d'Epsilon, en couverture, on voit un gros gorille. Et la question titre du dossier d'Epsilon, c'est faut-il donner des droits aux animaux? La science entre dans le débat. Nous avons en tout cas un exemplaire d'Epsilon à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook, autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque dans l'espace. Guillaume Langin va nous entraîner maintenant dans notre système solaire où nous sommes, et même au-delà. Y a-t-il une chance, comme le prétend Elon Musk, tiens donc, que nous allions nous établir ailleurs dans l'espace, mais où ? Piste de réponse et puis de retour sur notre bonne vieille Terre, juste après ce Space Song. Oh, vous connaissez ce morceau, Beach House sur RFI.
Thank you.
signé Beach House sur RFI. Deux circonstances pour ouvrir votre dossier de spécial de Ciel et Espace pour ce 600e numéro. Joyeux anniversaire, cher Guillaume Langin. Alors, dans ce numéro, on voit un astronaute, et assez joli quand même l'illustration. Nos auditeurs internautes, les abonnés vont recevoir le numéro de Ciel et Espace, et puis il est déjà disponible en version numérique. Mais on voit un astronaute avec deux valises et qui est en plein milieu du système solaire et au-delà avec cette question: où irons-nous vivre ? Oui, dites-moi, absolument. Vous y croyez vraiment, Guillaume Blanchard, est-ce qu'il y a
l'espace ? En réalité, on s'est un petit peu décroché de l'actualité pour ce numéro spécial, ce 600e numéro anniversaire. Hein, ça fait 600 numéros que Ciel et Espace existe, que ce vénérable titre, mais toujours fringant, mais oui, existe. Donc je viens vous présenter aujourd'hui un numéro qu'on a voulu original, un peu collector, avec un dossier plus long de 40 pages, presque festif, je dirais, qui se pose pas trop la question du « et si c'était possible ?». En fait, on va partir du postulat que beaucoup de choses sont possibles dans un futur à condition de regarder suffisamment loin, en misant sur l'ingéniosité de l'esprit humain et des solutions techniques qui n'existent pas encore aujourd'hui pour pouvoir habiter ailleurs que sur Terre. À court terme, effectivement, vous faites bien de le signaler.
Et puis en fait, ce n'est pas le propos. J'ai envie de dire que c'est presque un prétexte finalement pour aller explorer tous ces mondes, toutes ces planètes du système solaire et au-delà qui nous entourent.
Absolument, et en apprendre sur ces mondes. Donc on s'est demandé, en commençant par la Lune, à quoi pourrait ressembler la vie sur la Lune si on daignait y poser, y construire des premières bases dans les siècles à venir.
Donc, c'est ça, les bases lunaires, c'est presque pas de la science-fiction. Enfin, c'est...
Voilà, alors ça dépend de la taille de la base, hein, en quelque sorte. Oui, il y a des projets sur le papier pour l'instant qui dessinent les contours de petites stations scientifiques. En deux mots, pour le cas de la Lune, ce qui est à peu près certain, c'est qu'il vaudra mieux se mettre, si on veut y rester un petit peu longtemps, se mettre sous sa surface, protégé par la croûte, en fait.
La croûte lunaire,
des radiations et des chutes de météorites qui percutent votre satellite régulièrement.
Sous le sol de la Lune. Et vous, Guillaume Langin, vous avez particulièrement travaillé sur Mars. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'on sait de Mars ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? On est loin d'Elon Musk. Hein. Rappelons-le et redisons-le.
Oui, alors il y a plusieurs manières de se demander comment nous irons vivre sur Mars, ou même plutôt survivre sur Mars, parce que Mars est tellement hostile que ça tient plus à de la survie qu'à de la vie, contrairement à ce que Elon Musk et consorts veuillent en dire. Donc, dans les visions les plus science-fictionnelles du futur, on imagine des humains du futur capables de terraformer Mars, c'est-à-dire rendre Mars à l'échelle globale similaire à la Terre. Il faut regarder pour ça les fondamentaux. Est-ce qu'il y a sur Mars tous les ingrédients pour faire émerger une atmosphère, puisque Mars actuellement, elle en a une d'atmosphère, mais c'est comme si elle n'en avait pas. On parlait de l'Everest en début d'émission. La pression atmosphérique sur Mars est plus de 40 fois plus faible que la pression atmosphérique au sommet de l'Everest, où déjà les alpinistes frôlent l'asphyxie.
Absolument.
Et puis, il n'y a pas de pression, il n'y a pas non plus d'oxygène. Donc l'oxygène, il faut pouvoir se le fabriquer sur place. Ça demande des quantités d'énergie à déployer sur place qui sont assez colossales pour pouvoir faire respirer des colonies d'humains. Sur la création d'une atmosphère à l'échelle globale, il manque malheureusement quelques ingrédients à la planète Mars. On pourrait, disent certains auteurs de science-fiction, faire fondre la croûte de la planète entière.
Carrément.
Alors il faut des lasers surpuissants qui fonctionneraient pendant 50 ans en étant sur orbite martienne et qui fondraient cette croûte sur 8 mètres de profondeur pour fondre en fait la surface de Mars et que se dégage une atmosphère. Mais dans cette atmosphère, il manquerait quand même de l'azote pour reproduire l'atmosphère terrestre.
Oui, donc on n'y est pas encore. C'est vraiment de la science-fiction. Et au-delà, alors là, c'est vraiment des mondes totalement gelés quand on parle d'autres planètes. Même en restant dans notre système solaire, ça semble des mondes totalement gelés. D'ailleurs, en conclusion, Philippe Hénarejos, en conclusion de ce dossier, il dit mais finalement, en gros, c'est vive la Terre quand même, la conclusion de cet article. Mais entre-temps, vous avez aussi travaillé sur ces cylindres, les cylindres O'Neill. Qu'est-ce que c'est que ça ? On est entre science-fiction et en même temps une forme de... on est là en science-fiction, mais allez-y, ça nous plaît.
Effectivement, les cylindres de O'Neill sont une vision futuriste de la vie à l'extérieur de la Terre pour l'humanité qui ne reposerait pas sur le fait d'aménager un autre monde, c'est-à-dire dans toutes ces planètes du système solaire, aucune n'a une atmosphère comme la Terre. La grande majorité n'ont pas d'atmosphère, en fait. Donc, s'opposer à la surface de ces mondes-là, c'est comme être dans l'espace. Mmh. Donc, il faut vivre dans un vaisseau, dans une capsule. Bon, ben, pourquoi s'embarrasser à se poser sur ces mondes-là?
On peut vivre dans ce vaisseau, on peut rester dans ce vaisseau.
On peut rester dans ce vaisseau, dans ce vaisseau qui serait en orbite autour du Soleil. Alors là, Gérard O'Neill, dans les années 1970, a imaginé, avec un groupe d'étudiants, il était professeur de physique, a imaginé à quoi pourraient ressembler ces vaisseaux. Et ils ont débouché tous ensemble sur ce design, ce concept de cylindre de O'Neill, qui sont des vaisseaux bien de la forme d'un cylindrique très très long, avec sur les parois internes de ces cylindres une surface terrestre reproduite. Et en fait, le gros avantage de ces cylindres, c'est de, en tournant lentement sur eux-mêmes, le long de leur axe, de créer par la force centrifuge une pesanteur artificielle, une gravité artificielle.
Et donc à l'intérieur de ces cylindres, il y aurait une gravité artificielle.
Une gravité qui vaudrait 1G, comme celle qu'on a ici sur Terre. En fait, vous pouvez vous aménager des habitats aussi confortables que vous voulez à la surface de Mars ou à la surface de la Lune. Vous aurez toujours une gravité très faible. En fait, c'est, je crois, 38% de mémoire sur la planète Mars. Donc, on se sent plus léger. 16% de la gravité terrestre sur la Lune. Donc, à long terme, pour un humain, les organes internes vont en pâtir. Et je ne parle pas du développement d'un fœtus ou, si jamais, on imagine, voilà, toujours dans cette...
Dans la science-fiction,
des générations d'humains se reproduire et vivre à la surface de ces mondes-là. Donc,
vous optez plutôt pour les cylindres de O'Neill.
Ouais, ils ont cet avantage-là.
Avec un beau sourire dans les yeux, parce qu'on n'y croit pas vraiment.
On n'y croit pas vraiment, mais bon, après, il faut aussi, des humains en l'an 3000, 4000 écoutent notre émission, peut-être qu'ils se diront... Voilà.
Ça y est. Oh, ils n'y croyaient pas et on y est déjà. En tout cas, pour vous faire votre opinion, dossier complet, vraiment passionnant, au fond, sur notre système solaire et au-delà, hein, sur chacune de ces planètes, dossier à lire dans ce 600e numéro de Ciel et Espace, dont nous aurons quelques exemplaires à vous faire gagner, chers amis auditrices et auditeurs, parce qu'il n'est pas encore sorti. Il sera le 15 mars prochain en kiosque. Vous qui avez la tête dans les étoiles, mais qui savez garder les pieds bien campés sur notre Terre, la seule à ce jour à abriter la vie. Et elle a codé justement la vie dans notre ADN, mais aussi dans notre ARN, la révolution ARN, expliquée et décodée justement par François Lassagne dans Pour la Science, juste après s'être mise à l'écoute de nos cellules, justement, Cells sur RFI, signée iMonster. Autour de la
la question « Comment la science infuse jusque dans notre ADN et même dans notre ARN ?» François Lassagne, dans « Pour la science », vous nous faites partager, c'est la une et le dossier, une vraie révolution, la révolution ARN, les fonctions au fond totalement cachées, jusqu'alors ignorées de l'ARN.
Oui, et pour démarrer, l'ARN, peut-être que tout le monde ne sait pas vraiment ce que c'est.
On en a entendu parler pendant le Covid, vaccin ARN.
Oui, en 2020, les vaccins à ARN ont beaucoup fait parler d'eux, pour plein de bonnes raisons, pour quelques raisons d'inquiétude. En tout cas, l'ARN s'est imposé comme un outil au service de la médecine. Mais avant ça, l'ARN, c'est une molécule cousine de l'ADN qui contient notre génome, tous les gènes des êtres vivants. Et dans une vision très classique qu'on trouve dans les manuels scolaires, d'habitude, l'histoire classique, c'est qu'il y a des gènes qui sont des fragments d'ADN. Et puis ces gènes, ils déclenchent un processus de fabrication de protéines qui sont les ouvrières à tout faire de tous les organismes vivants. Ça fait des structures, ça fait les molécules cardiaques, les molécules de tous les muscles, dont le cœur, le sang, etc. Et donc les gènes codent des ARN, il y a un petit intermède qui s'appelle les ARN, et puis ces ARN, eux, ils vont être traduits en protéines. Ça, c'est le schéma super classique.
C'est ce qu'on lit dans les livres de biologie.
C'est ce qu'on lit dans les livres de biologie.
En fait, c'est pas ça. Ben,
en fait, alors, c'est ça, mais c'est très partiellement ça. Oui. Et on a commencé à changer de regard il y a déjà un petit moment. La science va vite, mais les manuels de biologie, eux, ils vont beaucoup moins vite. Et en 2012, il s'est passé un truc très important qui s'appelait le projet ENCODE, qui était un projet de longue haleine, qui a mis une dizaine d'années à aboutir, et qui a eu une conclusion assez étonnante, qui était de dire, ah ben mince alors, il y a 75% de notre génome qui est transcrit en ARN. Ok, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'on pensait avant que l'ARN, globalement, il y en avait 1 à 2% qui servait à fabriquer qui venaient des gènes. Oui. Et tout le reste, c'était de la poubelle. C'était les gènes sont transcrits en ARN qui ne sert à rien. Et puis, il y en a un tout petit bout qui sert à faire des protéines.
On parlait d'ADN poubelle et d'ARN poubelle.
Et puis, en 2012, en fait, non, 75% du génome est bien transcrit en ARN. Alors, en ARN, mais alors pourquoi faire si ce n'est pas pour faire des protéines? Et c'est là que tout a changé jusqu'aux années 2020 et jusqu'à aujourd'hui. Alors, en 2012, ce projet ENCODE, premier constat, l'ARN, il y en a plein qui est codé. Et en 2024, au plus récent, proche de nous, il y a eu un prix Nobel pour un ARN non codant qui était des micro-ARN. Parce que les ARN, c'est plein de choses différentes. Des molécules plus ou moins longues, il y en a des très petites, des très très longues, avec des milliers de molécules. Et on s'est rendu compte en fait que c'était une immense famille. Alors je vais en citer quelques-uns, puis après je vais expliquer pourquoi c'est intéressant.
Oui, c'est ça.
Il y a des ARN-M, ceux qu'on connaissait bien, c'est ceux qui passent de l'ADN aux protéines, c'est l'intermédiaire. Il y a des ARN-T, des ARN-P, des ARN-LNC, des micro-ARN, le prix Nobel 2024, des ARN-PI. Et de tout ça, on se dit, ben mince, alors, s'il y en a autant, c'est qu'ils doivent servir à quelque chose.
Ils doivent avoir une fonction et être utiles.
Génial, c'est que, justement, on découvre leurs fonctions. Alors, les micro-ARN, prix Nobel 2024, les Nobel, ça arrive toujours assez longtemps après les découvertes. Donc, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on sait que les micro-ARN, ils interviennent dans la régulation du passage entre les gènes et les protéines. Ils viennent bidouiller les chromosomes pour que seuls certains gènes ou une partie des gènes soient transformés en protéines et pas tous, ou bien que certains gènes soient éteints. Par exemple, le chromosome X, il y a plein de gènes qui sont éteints grâce à certains petits ARN.
Important.
Et on se rend compte surtout maintenant que ces ARN, en fait, ils ont deux intérêts. Un intérêt très immédiat pour les humains, c'est qu'en thérapeutique, on se dit les vaccins ARN ont montré que ça marchait, mais on peut faire beaucoup d'autres choses en fait. En utilisant certains types d'ARN, en les empêchant de faire leur travail ou au contraire en les stimulant, on se rend compte qu'on peut intervenir sur ce qui va se passer entre les gènes et les protéines pour que certaines protéines ne soient pas produites ou au contraire que certaines soient produites. C'est vachement important pour certains cancers. On sait que dans certains cancers du sang notamment, on commence déjà à avoir des résultats, alors pas en clinique encore. On est plutôt chez la souris ou dans des études sur les cellules.
Mais ça marche chez la
souris.
Mais
ça fonctionne. Donc l'ARN devient un outil thérapeutique. Et puis, ce qui est sans doute le plus épatant, en fait, ce qu'on a découvert, c'est que les ARN, non seulement à l'intérieur d'un même organisme, ils régulent tout ce qui se passe entre les gènes et la fabrication et le fonctionnement des protéines, mais surtout, en fait, ce sont des messagers entre différentes espèces, voire même entre différents règnes. Je vais prendre un seul exemple qui est assez parlant. Il y a deux règnes qui sont celui des champignons et celui des végétaux. Et bien, par exemple, dans les fraises, mais ça vaut pour un millier de plantes, dans les fraises, souvent, il y a une pourriture, qui est une levure, en fait, un champignon, qui s'installe, que les gens qui font de l'horticulture, puis ceux qui font des fruits, donc des fraises, connaissent bien, qui s'appelle la pourriture blanche. Cette levure, elle, quand elle arrive sur une fraise, typiquement, elle va envoyer certains ARN avec des petits vésicules qui sortent de ces cellules sur le fruit. Et normalement, ça va l'aider à s'installer, à se propager sur le fruit. Mais quand elle reçoit ses ARN, la fraise, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réplique en envoyant d'autres petits ARN à elle, à la surface, qui sont sortis de ses cellules et qui vont contrer l'action de la levure et qui vont empêcher la propagation de la levure. Donc en fait, on s'est rendu compte ces dernières années, et c'est un champ d'étude immense, c'est que même dans des règnes entre les champignons et les végétaux, mais si je prends la souris et l'humain, ça marche aussi. Mm-hmm. Les ARN sont un peu les textos du vivant. C'est-à-dire qu'il y a plein de messages qui s'échangent d'organisme à autre, et donc en général, soit pour se défendre contre un agresseur, mm-hmm. soit parfois pour des symbioses. Les bactéries qui sont dans les racines de plein de plantes, mm-hmm. elles, c'est pareil, elles envoient des ARN à la surface des cellules de la plante qui les accueille et qui va répliquer avec d'autres ARN. Mais là, pour le coup, c'est pour travailler ensemble. C'est pour que, en général, la plante absorbe plus d'azote et grandisse plus facilement grâce aux bactéries qui sont avec elle.
De l'intérêt de cette complexité de ce monde des ARN.
Puis ça a quelque chose d'encore plus fondamental, mais ça, c'est très, très théorique pour l'instant, c'est de se dire, mais alors comment ça se fait? On s'est focalisé sur l'ADN comme étant le code du vivant. En fait, on se rend compte qu'il y a un code plus important qui s'appelle l'ARN et qui est beaucoup plus versatile. Il change beaucoup plus vite. En gros, on peut faire beaucoup plus de bêtises avec l'ARN. On peut produire énormément d'ARN, petit et long. Ça va faire des modifications importantes sur l'ADN, mais du coup, on a le droit de se tromper parce que du coup, ça va produire des protéines qui ne sont pas bonnes pour un organisme, mais ça va en produire peu. Et celles qui fonctionnent, les ARN qui les auront produites, ils vont rester. Et ces ARN, peut-être qu'ils vont devenir codants pour longtemps. C'est-à-dire que ces ARN qui étaient poubelles deviennent codants et sont utiles pour les plantes. Et on se rend compte qu'en fait, par rapport à l'ADN qui est un peu rigide, il ne faut pas trop y toucher, sinon ça provoque des maladies. On peut essayer plein de choses. Le vivant peut essayer plein de choses avec l'ARN. Et c'est donc un réservoir d'évolution. C'est un réservoir de tentatives pour aller très très vite, essayer très vite.
D'essayer et ne garder que ce qui marche. Possible. Exactement. Ah, merci infiniment, François Lassalle, de nous avoir expliquer aussi clairement que ça les fonctions cachées de l'ARN, dossier très complet et aussi clair que vous venez de le faire, à lire dans Pour la science de ce mois de mars, disponible en kiosque et dont nous avons quelques exemplaires à vous offrir. À vous qui vivez loin d'ici, vous pouvez nous les demander par mail ou sur notre page Facebook autour de la question « Comment la science infuse ?» et jusqu'où Einstein avait-il raison pour la gravitation ? On s'interroge avec vous, Elsa Couder, sur le site de The Conversation, où vous avez interrogé trois astrophysiciens, astrophysiciennes et cosmologistes de renom. Allez, d'abord, on se met à l'écoute de Pierce Fassini et Balaké Sissoko. Extrait titre de circonstance, If Nothing Is Real. C'est dans notre playlist du mois sur RFI à déguster sans modération.
He caught me whispering to myself, finding somewhere that I can be for something that I see in you, for someone that you would see in me. If nothing is real, then nothing is true. If nothing is real,
avait-il raison? Elsa Couder, vous publiez l'article de trois cosmologistes, astrophysiciens, astrophysiciennes qui ont développé un nouveau test de gravitation qui interroge autour des théories d'Einstein.
Tout à fait. Alors, Einstein, évidemment, ce grand génie a développé la théorie de la relativité générale qui est à la base de notre description du cosmos. Et ça marche relativement bien, mais il y a quelques petits indices qu'il y a des choses qui manquent. Et donc, les cosmologistes se posent plein de questions sur le sujet et développent des nouvelles sondes observationnelles pour aller voir le cosmos le plus loin possible, le plus précisément possible. Donc, Isaac Tutuzhaus et ses deux collègues ont récemment publié une étude basée sur les données du Dark Energy Survey, qui est donc un catalogue qui est fait grâce à des télescopes qui sont basés sur la Terre et qui regardent les galaxies très lointaines dans le cosmos. Donc, il faut imaginer que quand on regarde loin dans l'espace, on voit loin dans le temps. Et ça, voilà.
Et la gravitation se comporte différemment quand on voit très loin dans l'espace et très loin dans le temps.
Alors en fait, ça va être la conclusion un petit peu de leurs observations. Il faut voir que ce sont ces observations. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé les galaxies à différentes tranches de temps dans l'univers. Et ils voient qu'elles sont bien décrites, on va dire, par la relativité générale, en particulier au début de l'univers, donc entre 3 à 5 milliards d'années, tout va bien. Et puis un peu plus tard, plus proche de notre époque, la relativité générale décrit un petit peu moins bien le cosmos. Et ça pourrait être une signature, un premier signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Il se trouve que c'est exactement dans ces périodes-là que l'expansion de l'univers a accéléré. Ça, on le sait par ailleurs. Mm-hmm. Et on ne comprend pas à l'heure actuelle cette accélération de l'expansion. Voilà. Donc, en fait, les scientifiques, un peu comme des détectives, essayent de rassembler des preuves. Ce que nos auteurs expliquent bien, c'est que les données du Dark Energy Survey sont certaines données parmi beaucoup d'autres. Évidemment, il y a beaucoup d'autres cosmologistes qui travaillent à essayer de comprendre ce qui s'est passé à cette période un petit peu charnière où l'expansion de l'univers accélère. Et notamment, on attend avec impatience les données du satellite Euclide qui vont tomber très bientôt.
Oui.
Voilà, on devrait avoir des résultats annoncés prochainement. Donc là, c'est un satellite, il est dans l'espace, il n'a plus tous les problèmes d'observation liés à l'atmosphère terrestre. Et donc, on va avoir des données, on va dire, complémentaires à celles qu'ont pu analyser les chercheurs pour cette étude.
Et donc, ils attendent en fait quoi ? Ils attendent les données justement de ce satellite Euclide pour pouvoir confirmer, infirmer, savoir si Einstein avait raison jusqu'au bout, partout et tout le temps finalement ?
Voilà, oui. Alors, effectivement, d'une part, voir si avec ces nouvelles données, on confirme ou on infirme ce qu'eux pensent voir. Savoir s'il y a d'autres éléments, d'autres indices qui nous permettent de progresser dans notre compréhension donc, de l'expansion de l'univers. Donc, il faut imaginer l'univers. Souvent, il donne l'image d'un ballon gonflable, un ballon de baudruche que vous gonfleriez. Donc, ça, c'est une surface en 2D. Et si vous avez dessiné deux points au marqueur sur votre ballon, les points s'éloignent l'un de l'autre. Mm-hmm. Ça, c'est l'image simpliste pour expliquer l'expansion de l'univers. Quand on gonfle le ballon, les points s'éloignent l'un de l'autre. Évidemment, dans notre univers, il y a beaucoup plus de dimensions, puisqu'on est dans l'espace-temps.
Mais
et donc,
on peut comprendre
ce ballon,
comme ça, c'est la taille
du ballon.
Il se
fait gonfler
ballon,
plus rapidement. Mmh. Voilà. Ça permet un petit peu d'avoir une image et il se fait gonfler plus rapidement. Et on essaye de comprendre pourquoi il gonfle plus rapidement. Il faut ajouter des ingrédients à la théorie d'Einstein et pour l'instant, on n'est pas trop sûr des ingrédients qui fonctionnent. Donc derrière ce titre un petit peu provocateur, jusqu'où Einstein avait-il raison, l'idée c'était vraiment de parler de distance, c'est-à-dire il avait raison. Alors pour l'instant, on a l'impression, d'après cette publication, que ça marche bien au début de l'univers et moins bien après. Donc
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On peut lire sur le site en ligne de The Conversation, où vous êtes, je le rappelle, Elsa Couder, chef de la rubrique Science. On peut lire, le lien est sur notre page, cet article au titre effectivement provocateur. Jusqu'où Einstein avait-il raison? Mais c'est dans le jusqu'où qu'il va falloir aller trouver les explications. Merci beaucoup Elsa. Et je vous rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, que vous pouvez remporter tous les magazines dont nous avons parlé. Ciel et espace, Pour la science, Epsilon, Science et avenir, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook autour de la question « Comment la science infuse et se diffuse ?». Et puis, chers amis IES, confrères, consoeurs de la presse scientifique, je propose qu'on se retrouve en avril, lundi 7 avril prochain précisément, pour une nouvelle infusion de science. Merci Elsa, merci Valérie, merci François, merci à Mathieu qui a dû filer et merci Guillaume.
De gagner les magazines de la revue de presse, envoyez votre nom, prénom et adresse postale par mail à autourdelaquestion@rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h, temps universel. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast disponible sur l'appli RFI Pure Radio et sur toutes les bonnes plateformes. On se retrouve, si vous voulez bien, demain, mêmes ondes, même heure, autour de la question « Pourquoi et comment chasser les neutrinos ?» en compagnie de Kumiko Kotera, la toute nouvelle directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris, autrice d'un ouvrage à nul autre pareil, « L'univers violent », ça promet. Avec Thibaut Badiol à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir. D'ici là, portez-vous bien, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Et un grand merci pour votre curiosité sans cesse renouvelée. Dans quelques instants sur RFI, ce sera l'heure du journal.